Chapitre 52. Manu s'est couché facilement. Le pauvre môme, il avait besoin de cracher le morceau. Il était tellement terrorisé qu'on l'aurait cru sous coke. Une vraie pile électrique. Il n'arrêtait pas de parler. Dé avait obtenu la coopération du gamin contre la promesse de faire disparaître tout élément de preuve le rattachant à cette histoire. Elle savait juger les hommes, et Manu lui avait paru fiable. D'autant plus qu'il avait révélé où il avait planqué la voiture pour qu'elle puisse enquêter sur son propriétaire. Je n'avais rien vu de l'interrogatoire, juste entendu les enregistrements, et j'en étais encore saisi d'effroi tandis que nous roulions sur la 10 en direction du sud-ouest. Une violente nausée m'a secoué quand nous nous sommes engagés sur le viaduc d'Oléron. Et lorsque nous nous sommes garés devant une demeure isolée dans les bois, j'ai compris que Sixtine n'avait certainement jamais quitté l'île. Au début, j'étais vénère à cause des lignes qui faisaient la gueule dans le range. Elle voulait pas descendre de la caisse parce que les proprios étaient pas là et m'interdisait de la foutre dans le garage. C'était pas très prudent de laisser la bagnole dehors, mais bon, je me suis dit que derrière les murs et le portail, on était pas mal planqués. Alors on est entré par le garage pendant qu'elle faisait le guet et on a visité cette baraque de ouf. Avec Farid, on a pensé qu'on allait louer un camion pour déménager ce qui valait des thunes. Une fois débrayé par les hommes de D, le portail s'est ouvert et nous nous sommes glissés dans le jardin en file indienne. Selon les voisins, personne n'était venu ici depuis le départ du propriétaire. Je la trouvais sinistre, cette maison, tapie dans la nuit, entourée de chênes dépouillés que le vent de janvier agitait. Dans la lumière de nos lampes, elle ressemblait à un préfabriqué recouvert d'un crépi épais et inégal. On aurait dit une grosse meringue. Nous étions vêtus d'une combinaison intégrale pour ne laisser aucune trace, et nous progressions avec précaution, aussi silencieux que des ombres. Derrière la bâtisse, il y avait une sorte de chais en pierre du pays, dont on avait muré les ouvertures. C'était étrange. En faisant le tour de cette construction, nous avons constaté qu'il était impossible d'y pénétrer. Au-delà s'étendait un grand terrain piqué d'arbres, inaccessible parce que situé de l'autre côté d'une grille. Encore une bizarrerie. Plus loin encore, un haut mur d'enceinte masquait la vue.
Ouais, elle était vraiment ouf, cette baraque. Tu sentais qu'il y avait deux parties, une avec des meubles classe et l'autre plutôt dans style Ikea, avec des dessins de gamins accrochés au mur. Tu sais, genre avec des pattes et des gommettes. Nous, on s'en battait les couilles de tout ça. On faisait les beaux devant les meufs. Dans la cuisine, il n'y avait rien à becter. Et quand je te dis rien, c'est vraiment que dalle. Frigo débranché et pas une goutte de picole, même pas une bière. Une baraque de bourges pour les vacances de leurs gosses. Quand t'as grandi dans ma cité, c'est dans des endroits comme ça que tu comprends comment vivent ces fils de pute.
Les mots de Manu m'ont fait penser à la maison de la Perroche. La propriété des Vigiers était située à quelques kilomètres de là. Une coquille vide, 10 mois sur 12, au bord de l'océan.
Il fallait que j'aille faire un tour pour aller nous chercher de cotiser. Mais autant le garage, ça avait été du gâteau, autant la porte d'entrée voulait pas s'ouvrir. Ah, c'était du costaud, hein, avec du verre anti-effraction et tout. Et les fenêtres, pareil. Je connais ces trucs-là. Tu peux pas en venir à bout. Y a rien à faire. C'est quand même ouf de blinder sa baraque au point qu'on peut pas en sortir, non? Heureusement, il y avait Eline qui tirait toujours la tronche dans la caisse. Elle m'a vu m'agiter à la fenêtre et elle m'a ouvert la porte d'entrée parce que le garage aussi s'était refermé tout seul. Tu te rends compte? Une maison qui s'ouvre que de l'extérieur, c'était le monde à l'envers. Aujourd'hui, je me dis que si à ce moment-là j'avais réfléchi un peu plus au lieu de penser qu'à fourrer son nid d'oiseau, on n'en serait pas là.
Je m'en remettais à D tandis que nous pénétrions à notre tour dans la maison et que ces hommes s'affairaient à bloquer le battant pour qu'il ne se referme pas. J'avais une main crispée sur son épaule gauche, comme elle me l'avait demandé. Toujours silencieux, nous avons exploré les pièces sur les traces de Manu et de ses amis. Il flottait dans l'air une odeur d'eau de Javel. Vidéosurveillance en circuit fermé, pas de téléphone, pas d'ordinateur, a remarqué D. Si Eline avait suivi ses petits copains, Il n'aurait eu aucun moyen de ressortir. Elle m'a expliqué ça en pointant du doigt un boîtier accroché dans un coin du salon.